Bonjour, native des peuples des racines, un podcast en partenariat avec Esprit Occitanie. Aujourd'hui, nous vous proposons une autre forme de podcast qui est une lecture d'articles. Article de notre numéro 8, architecture vivante, sensible et inspirante. Il s'agit d'une interview réalisée par Claire Barré, Jocelyn Morisson et Jean-Pierre Chaumeton. Nous remercions très vivement Anne-Carine Perrichon pour la lecture de cet article. L'article se nomme « Abandonner la peur ». Dernier Lapointe, Ernie est un natif nord-américain né en 1948. C'est l'arrière-petit-fils du grand chef Sitting Bull, l'une des figures majeures de la résistance amérindienne. Né dans une réserve indienne, Ernie a reçu dans son enfance l'amour et les enseignements de sa mère, une femme médecine qui lui a transmis les valeurs, la sagesse de son peuple. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve après.
Dans le magazine 8 de Native, des peuples, des racines, retrouvez les propos d'Ernie Lapointe. Propos recueillis par Claire Barré, Jocelyn Morisson et Jean-Pierre Chaumeton. L'article s'intitule « Abandonner la peur ». Ernie Lapointe est un natif américain né en 1948. Il est l'arrière-petit-fils du grand chef Lakota Sitting Bull, l'une des figures majeures de la résistance amérindienne. Les Lakota sont ceux que nous appelons les Sioux. Né dans une réserve indienne, Ernie a reçu dans son enfance l'amour et les enseignements de sa mère, une femme médecine qui lui a transmis les valeurs de son peuple. Devenu orphelin tôt, Ernie s'est engagé dans l'armée à 18 ans et a traversé l'enfer de la guerre du Vietnam. Il perd sa foi là-bas et revient aux États-Unis abîmé par un stress post-traumatique violent qui le plonge dans l'alcool, la violence et la rue. Arrivé au bout de cette nuit noire de l'âme, il lance un appel à Wakan Tanka, le grand mystère, et sa prière est entendue. Il sort de l'alcool et renoue avec la spiritualité de ses ancêtres. Aujourd'hui, Ernie nous délivre dans un livre autobiographique « Sun Dancer », sagesse et vision d'un natif américain, qu'il co-signe avec la romancière et scénariste Claire Barré. Un témoignage aussi rare que précieux sur son parcours de vie, mais aussi sur les visions d'avenir qu'il a reçues au cours de cérémonies sacrées. Des visions qui nous concernent tous, puisqu'elles sont en lien avec notre mère, la Terre. Ernie Lapointe a accepté de répondre à nos questions. Ernie, que pourriez-vous dire de votre parcours de vie? Je suis née dans une réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, et j'y ai passé les premières années de ma vie. Enfant, je ne parlais que le Lakota, la langue de mes ancêtres. Puis, j'ai quitté la réserve et déménagé à Rapid City. C'est là que j'ai appris l'anglais. À l'école, avec quelques natifs, mais aussi des vasichous, des blancs. Quand je raconte mon parcours, beaucoup de gens me disent « Tu as eu une vie difficile ». Mais je leur réponds que non, pas du tout. Ma vie n'a pas été difficile. Elle a été un long apprentissage. Toutes les erreurs que j'ai pu commettre, toutes les épreuves que j'ai traversées, ont été des enseignements qui ont modifié et enrichi ma vie. La chose la plus importante que j'ai apprise, je crois, c'est qu'il ne faut jamais vivre dans la peur. C'est ça que les esprits qui m'accompagnent aimeraient que je transmette au monde. Abandonner la peur. C'est elle qui signe la perte et la ruine de l'être humain. C'est de la peur que découle le racisme, l'avidité, l'envie, la jalousie. Les mots les plus terribles qui frappent notre monde sont les enfants de cette peur. À cause d'elle, nous sommes en train de détruire la terre-mère. Nous nous détruisons aussi les uns les autres. Est-ce que vous avez grandi dans la peur ? Non, pas du tout. Au contraire. Même quand j'étais un petit enfant, que j'avais peut-être 4 ou 5 ans, ma mère me répétait « N'aie jamais peur de rien, respecte toutes les choses vivantes. Ne crains pas le vent ni les tempêtes, ne crains ni les animaux ni les choses vertes qui poussent, le monde végétal, et surtout, ne crains pas les autres êtres humains. » Elle ajoutait « Tu feras des erreurs dans ta vie, mais apprends toujours de ces erreurs et ne les reproduis pas. » J'ai écouté ces paroles avec attention, même si j'étais petit. Et aujourd'hui encore, malgré mon âge, je continue à apprendre les choses nouvelles et à évoluer. L'enseignement ne s'arrête jamais. Je pense que je continuerai à apprendre même après ma mort. C'est ce qui nous attend tous. Le chemin ne s'arrête jamais. Mais la clé, c'est qu'il faut vivre sans peur. Quand tu parviens à vivre sans peur, tu commences à voir l'avenir avec beaucoup de clarté, parce que la peur dirige ton regard vers le passé. Les êtres humains d'aujourd'hui ont tendance à étudier le passé jusqu'à l'obsession. Ils pensent qu'en agissant ainsi, ils bâtiront un avenir meilleur. Mais ça ne fonctionne pas. Nous n'avons rien appris des 3 dernières purifications, apocalypse, que la Terre-mère a opérées. Dans la culture Lakota, on n'avait pas cette obsession du passé. Avant l'arrivée des Européens sur l'île de la Tortue, donc l'Amérique du Nord, nous vivions sans peur. Les tribus n'avaient pas vraiment d'ennemis, plutôt des adversaires. Les batailles étaient moins sanglantes. Le but n'était pas de tuer son adversaire, mais plutôt de l'humilier, en le touchant avec un long bâton. C'est comme ça que nos ancêtres gagnaient leurs plumes, pas en se massacrant les uns les autres. C'était presque comme un jeu. Ils vivaient sans peur. Si tu ne crains pas les êtres vivants et que tu les respectes, ils te respecteront à leur tour. C'est de ça que j'essaye de parler dans mon livre. J'essaye de dire « Écoutez, lâchez tout ce que vous croyez savoir et abandonnez votre peur. » Concentrez-vous plutôt sur l'avenir, sur ce qu'on pourrait bâtir demain. Tournez-vous vers l'avenir de manière positive, avec humour même. Remplacez la peur par l'humour. Nous devons comprendre que nous sommes tous égaux. Comment pourrions-nous travailler ensemble pour améliorer cet avenir qui s'annonce ? Nous devons sauver la Terre-mère afin qu'elle puisse accueillir les prochaines générations. J'espère que ces générations pourront survivre. C'est d'ailleurs cette jeunesse qui doit être enseignée dès maintenant. Durant des cérémonies, les esprits de nos ancêtres nous ont expliqué que, passé un certain âge, si notre vie entière a été marquée par la peur, c'est très difficile de se débarrasser d'elle. On est très marqué par nos habitudes. Beaucoup de personnes sont terrifiées par ce monde et s'y sentent sans cesse menacées. Pourquoi, selon vous, vivent-elles dans cette peur ? Est-ce parce qu'elles sont déconnectées de leur vraie nature ? Ce que j'ai à dire là-dessus risque de mettre certains en colère. Selon moi, si les gens ont autant peur, c'est principalement à cause des religions. Les religions organisées apprennent à leurs adeptes, dès leur plus jeune âge, à avoir peur de leur créateur. Ici, aux États-Unis, les pasteurs répètent sans arrêt « Craignez Dieu !» Ils menacent aussi, martèlent « Si vous faites quelque chose de mal, vous brûlerez dans les flammes de l'enfer !» C'est comme ça qu'ils instillent la peur dans le cœur de tous ces enfants qui grandissent avec ce sentiment de terreur. Je connais un peu les religions organisées. Parce que quand j'étais petit, on nous forçait à aller à la messe. Notre spiritualité était interdite et l'église était obligatoire. quand je vivais à la réserve, des agents nous obligeaient à y aller le dimanche. Je n'aimais pas du tout cela. Je ne comprenais pas pourquoi ce pasteur se mettait à nous dire ce qu'on devait faire ou ne pas faire. Pourquoi il nous menaçait sans cesse d'aller en enfer? Ça allait à l'encontre de tout ce que ma mère m'enseignait à la maison. Dans la culture Lakota, nous n'avons ni enfer ni paradis. Nous considérons qu'en tant qu'esprit incarné sur cette terre, nous créons notre propre enfer ou notre propre paradis dans cette réalité, durant le temps de notre existence. Si tu passes ta vie à craindre Dieu ou à craindre la mort, le jour où ton corps mourra, ton esprit, terrorisé, ne parviendra pas à rejoindre le monde des esprits et restera bloqué, en fantôme, dans les vibrations de cette planète. Et c'est ça qui deviendra ton enfer. Tu revivras la terreur de ta mort encore et encore et encore, comme un disque rayé. 99% des fantômes qui hantent cette planète ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils se croient encore vivants et sont encore attachés à tout ce qu'ils pensent avoir perdu, leurs biens matériels, tous leurs liens d'attachement. Il ne faut pas craindre la mort et rejoindre en confiance le monde des esprits où nous attendent nos ancêtres. Question. Quel est le cœur de ce que vous voulez transmettre? Ce que j'essaye de transmettre, c'est cet enseignement simple qui consiste à dire « Regardez à l'intérieur de vous-même. Je ne peux rien vous apprendre. La seule personne qui peut réellement vous enseigner, c'est vous. Partez à la recherche de votre professeur intérieur. Connectez-vous à votre intuition et faites-lui confiance. » L'éveil viendra de l'intérieur, pas d'un événement extérieur ni d'une voix autre que la vôtre. Vous êtes celui ou celle qui peut vous apprendre à abandonner la peur. Si vous êtes déjà vieux ou vieille, ce sera sans doute plus complexe, mais c'est possible. Les jeunes enfants, eux, viennent seulement d'arriver au monde des esprits, et leur esprit est encore capable d'apprendre de nouvelles choses. Dès leur plus jeune âge, il faut leur apprendre à ne craindre rien, ni personne. Ça leur permettra peut-être de grandir en ayant les yeux fixés sur l'avenir. Ils sont venus sur cette terre pour être enseignés. Pour moi, la terre est comme une immense salle de classe. Nos esprits, nos âmes, viennent ici pour apprendre. Nous passons par 4 phases. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et si nous avons de la chance, nous pouvons arriver jusqu'à la vieillesse et compléter ainsi le cercle de la vie. Après ça, notre âme peut entreprendre son voyage de retour jusqu'au monde des esprits. Sur Terre, notre esprit doit apprendre à reconnaître le bon du mauvais ou le bien du mal. Il s'y retrouve confronté sans arrêt et doit sans cesse faire le choix d'aller vers le positif et de s'éloigner de la négativité. Dans la culture Lakota, les histoires qui nous racontent la vie de nos ancêtres essayent de mettre en valeur l'aspect positif de leur vie. Mais ces histoires parlent aussi d'un défaut de caractère qu'ils auraient eu ou d'une faute qu'ils auraient commise. C'est ce défaut ou cette faute qui prouve que nos ancêtres, tout comme nous, ne sont que des êtres humains faillibles. Mais même ces failles de caractère, on essaye de les raconter de manière positive pour donner des enseignements à ceux qui écoutent. Dans toutes les histoires que ma mère me racontait sur mon arrière-grand-père, elle essayait de mettre en lumière ses qualités profondes, toutes les belles choses qu'il avait accomplies. Elle me disait que c'était un homme qui prenait soin de sa tribu, qu'il leur apportait du soutien et de l'aide. Il devait bien avoir quelques défauts. Ma mère a dû m'en citer un, mais elle voulait m'enseigner avant tout qu'on ne capitalise pas sur les choses négatives, mais bien sur les choses positives. À travers ces histoires de vie, les Lakota apprennent aux enfants à n'avoir peur de rien. Ils mettent en avant le courage et la détermination. Comme j'ai grandi dans cette culture, je n'ai peur de rien, ni des autres, ni de la mort. Si je devais mourir aujourd'hui ou demain, c'est que c'était prévu comme ça. J'espère juste que j'aurai le temps de terminer la mission de vie pour laquelle je suis née, avant de repartir au monde des esprits. Et ma mission, c'est simplement de partager ces pensées avec les gens qui m'écoutent ou qui me lisent. J'essaye de leur montrer qu'il est possible de vivre sans cette terreur. Je ne leur dis pas « soyez comme moi », je leur dis « soyez vous-même et lâchez toute peur ». Une fois que vous abandonnez la peur, votre esprit, votre âme se rappellera soudain pourquoi elle est venue sur cette terre. Nous ne nous sommes pas incarnés pour nous soumettre aux leaders de ce monde. Nous sommes venus ici pour devenir des êtres libres et uniques. Soyez vous-même. Évoluez afin de prendre part au changement dans ce monde, dont ce monde a besoin, afin de créer un monde meilleur pour les générations à venir. Question. Parlez-nous des différents obstacles que vous avez rencontrés sur votre route. Très souvent, ces obstacles sont venus de personnes qui avaient peur de moi. J'ignore pourquoi elles avaient peur. Cette peur se transformait souvent en remarques racistes. J'ai été souvent victime de discrimination. Mais quand je sens cette haine surgir, je fais en sorte de ne pas la rendre en retour. Je sais qui je suis. Je n'ai donc pas besoin de haïr qui que ce soit. Je dis souvent aux gens, si vous saviez qui je suis, vous arrêteriez de me craindre. Vous auriez au contraire envie de devenir mon ami. D'un autre côté, je n'ai pas vraiment d'amis. J'ai juste des connaissances. Très jeune, quand je me suis retrouvée à la guerre du Vietnam, j'ai compris que si tu te fais de bons amis et qu'ils meurent brutalement au combat, leur mort arrache un morceau de ton âme. C'est comme ça que j'ai appris à avoir des connaissances plutôt que des amis. On essaye d'en avoir le moins possible les uns sur les autres. On se donnait des surnoms même. Quand un soldat meurt, tu n'as pas envie de connaître ni sa famille, ni ses amis, de savoir d'où il vient, ni qui il était. J'ai gardé cette habitude. Pour devenir mon ami, il faut gagner ma confiance. Et en retour, je dois gagner la confiance de cette personne. Il faut créer une connexion spéciale. Savoir que l'autre ne te laissera jamais tomber en cas de besoin. C'est ça l'amitié véritable. Dans notre culture, on a une cérémonie qui s'appelle Unkayapi. C'est une cérémonie qui permet de choisir une personne et de s'en faire un ami, presque un membre de sa famille. Ça crée un lien si puissant que ça surpasse le lien que vous avez créé avec votre famille de sang. Parce que vous vous êtes choisi. Vous ne pouvez pas laisser votre unka dans le besoin. S'il a faim, froid, si quelque chose lui arrive, vous devez lui venir en aide, à lui et à ses proches. Et il fera la même chose pour vous. C'est ce à quoi vous vous engagez quand vous faites cette cérémonie. C'est ça ma vision de l'amitié. C'est pour ça que je ne m'engage pas facilement dans cette voie. Ma seule amie véritable, c'est ma femme, Sonia. C'est mon amie et aussi quelqu'un qui fait partie de mon âme. Jamais je ne la laisserai tomber. Et je sais qu'elle non plus ne me laissera jamais tomber. On peut s'asticoter de temps en temps, mais nous sommes des partenaires et ce lien n'est jamais remis en cause. C'est ma seule amie. Bien sûr, j'ai quelques connaissances qui sont chères à mon cœur. Claire en fait partie, mais elle vit si loin. Pour autant, je l'aime. J'aime son mari, ses enfants, j'aime toute sa famille. Je les porte dans mon cœur. Question. Pourriez-vous nous parler des valeurs de la culture Lakota? On apprend aux enfants Lakota à ne pas entretenir leur peur, mais à cultiver quatre valeurs fondamentales. La compassion, la générosité, l'humilité et le courage. Ces quatre valeurs émotionnelles sont les guides de votre personnalité. Pour comprendre qui vous êtes, interrogez ces quatre valeurs à l'intérieur de vous. Une fois que vous aurez compris qui vous êtes, vous pourrez rejoindre la communauté humaine, mais en tant qu'individu. Ma mère me disait toujours, si tu vis selon ces valeurs et que tu comprends qui tu es, alors tu seras parfait. Et pourtant, quand j'ai été à l'école, on m'a fait comprendre que rien ni personne n'était parfait. Quand je suis rentrée à la maison, je m'en suis ouvert à elle. Elle m'a dit, tu es parfait dès que tu deviens toi-même. Chacun est parfait dans son identité. Il ne faut chercher à copier personne, ni moi, ni ton père. Nous ne sommes là que pour te donner un bon exemple. Car nous aussi, nous cherchons à vivre selon ces quatre valeurs fondamentales. Comporte-toi toujours bien, prêche par l'exemple. Ça permettra à d'autres d'observer tes agissements et d'en faire des enseignements qui leur permettront de se rencontrer eux-mêmes. Deviens toi-même et tu seras parfait. Tu dois faire preuve de compassion envers chaque être vivant. Tu dois te montrer généreux. N'oublie jamais de rester humble. Contente-toi souvent de ne rien dire, d'observer et d'écouter ce que les gens ont à te dire. Qu'ils aient raison ou tort, tu les écoutes et ça te permet de comprendre qui ils sont, où ils en sont sur leur chemin. Et le courage doit lui aussi t'accompagner. Et un jour, peut-être, il te faudra te lever et prendre la parole. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de partager mes pensées, ainsi que les visions et les enseignements que j'ai reçus au cours de cette vie. Question. Vous avez perdu vos parents très jeunes. Est-ce qu'ils vivaient selon les valeurs Lakota ? Était-ce facile à l'époque de vivre selon ces traditions et ces enseignements ? Ma mère vivait de manière traditionnelle, oui, en suivant les préceptes de la spiritualité Lakota. Mon père, lui, était plus attiré par l'idée de s'intégrer à la culture américaine. Il était déjà vieux quand je suis née. Certains de ses enfants, issus d'un précédent mariage, auraient presque pu être mes parents. Mes parents avaient chacun été mariés et avaient déjà eu des enfants. Mais je suis le fils unique de leur union. J'avais beaucoup de demi-frères et demi-sœurs, tous beaucoup plus âgés que moi. Ma mère m'a tout enseigné. Mon père était relié à cette culture, bien sûr. Il avait grandi à l'intérieur de ses valeurs, mais il en restait un peu éloigné, parce qu'à l'époque, le gouvernement américain avait rendu notre culture et notre spiritualité illégales. Toutes nos cérémonies étaient interdites. On pouvait aller en prison, juste pour avoir brûlé de la sauge. On n'avait pas le droit de chanter nos chants sacrés. Les vieux Lakota étaient obligés de dissimuler leur chanoupa, leur pipe sacrée, sinon ils risquaient de se faire arrêter par les autorités. Ma mère nous a quand même tout transmis, à ses filles et à moi, mais en nous disant que c'était secret. Je ne l'ai connue que quelques années. Elle est morte d'un cancer alors que j'avais à peine 10 ans. Donc je n'ai réellement pu profiter de ses enseignements que durant 5 années, car mes premiers souvenirs d'elle remontent au moment où j'avais 4 ou 5 ans environ. On n'avait ni télévision, ni radio, ni ordinateur. On n'avait même pas l'électricité dans notre petite cabane en bois de la réserve. Donc le soir, ma mère nous racontait des histoires. Elle nous parlait de notre ancêtre, mais aussi des contes et légendes de notre culture. Elle nous racontait tout ça en Lakota, ma langue maternelle, la langue de ma tribu. Et c'est pour ça que ces mots sont encore en moi aujourd'hui. C'est une langue belle et profonde qui s'ancre en vous. Une langue avec des mots qu'on ne peut pas tordre dans tous les sens, comme ceux de la langue américaine. Encore aujourd'hui, c'est dur pour moi d'être obligée de parler en américain. Leurs mots n'ont pas de racines, ils flottent. Les esprits disent que l'américain est une langue inversée. Une langue avec laquelle il est facile de mentir. À mon sens, c'est une langue morte. J'aimerais pouvoir vous parler en Lakota. Alors vous comprendriez exactement le message que j'essaye de faire passer. La langue Lakota est précise et tient en éveil. Aucune phrase ne peut avoir de double sens. Et surtout, la culture Lakota est basée sur l'humour. On considère que juste après avoir fait passer un enseignement, il faut faire rire son interlocuteur. Le rire permettra à son cerveau d'enregistrer l'information. Et cet enseignement ressurgira un jour, au moment voulu, 10 ans plus tard peut-être, ou 30 ans plus tard. Les paroles de ma mère me sont revenues, de cette manière, à des moments importants de ma vie. Des paroles que j'avais enregistrées sans les comprendre quand j'étais enfant. Question. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui apprennent encore la langue Lakota? Ils tentent de l'enseigner à l'école, dans les réserves. Ils ont essayé de l'imprimer dans les manuels scolaires. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut l'apprendre. C'est une langue orale. Il y a des sons très particuliers dans cette langue qu'on ne peut saisir et prononcer que si on les entend. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre le Lakota à la maison. Mes parents, mes sœurs, tout le monde ne parlait que Lakota chez moi. Je n'ai appris à parler l'anglais qu'à 6 ou 7 ans, quand j'ai dû aller à l'école. Question. Pourriez-vous nous parler un peu de votre chemin spirituel et de ces visions que vous avez reçues? Je pense que j'ai toujours eu accès à la spiritualité, depuis l'enfance. Pour autant, je n'ai pas toujours pris le temps de m'y intéresser ni de me poser pour écouter les messages qu'on m'envoyait. La première fois que j'ai vécu une expérience spirituelle, c'était au Vietnam, je pense. Je ne l'avais pas vraiment vu comme ça avant que j'en reparle avec des vétérans qui souffraient, eux aussi, de stress post-traumatique. On discutait entre nous de la souffrance qu'il y a à perdre des amis à la guerre. Je leur ai raconté que je connaissais 2 jeunes hommes qui avaient le même âge, qui venaient de la même ville et qui étaient arrivés au Vietnam en même temps. Ils avaient suivi l'entraînement ensemble. L'armée avait un programme appelé le « Buddy Plan ». 2 soldats considérés comme des compagnons s'enrôlaient ensemble puis se suivaient de combat en combat. C'était une manière de renforcer leur fraternité. Ces 2 soldats sont arrivés dans notre escouade. Ça faisait peut-être 6 semaines qu'ils étaient avec nous quand l'un d'entre eux s'est fait tuer. Et l'autre ne pouvait pas s'arrêter de sangloter. C'était son ami. Ils étaient très liés. Un soir, peu de temps après, on était dans la jungle, dans le camp de base. Il pleuvait fort, si fort qu'on était réfugiés sous un petit abri construit avec des sacs de sable et un petit toit en acier. On avait pris des ponchos sur les bords de l'abri pour nous protéger des trombes d'eau. C'était la mousson. On ne voyait pas à 100 mètres. Le soldat qui avait perdu son ami était là avec nous, toujours en larmes. Rien ne pouvait le consoler. On était peut-être 4 ou 5 avec lui. Soudain, quelqu'un s'est glissé dans l'abri avec nous. On ne l'avait jamais vu. L'inconnu a regardé ce soldat qui sanglotait et nous a demandé « C'est quoi son problème ?» On lui a expliqué que son ami était mort au combat. L'homme a sorti quelque chose de sa sacoche et a dit « Il faut qu'il fume ça. » Il a préparé une petite pipe de marijuana. Le soldat au cœur brisé a fumé un peu d'herbe et quelques minutes après, il avait arrêté de pleurer et riait même de bon cœur avec nous. L'homme est reparti. Quand il a remis sa casquette, j'ai vu qu'il avait le grade de capitaine. J'ai demandé aux autres « C'était qui ce type ?» Personne ne le connaissait. La pluie a fini par se calmer et on a pu quitter l'abri. On s'est mis à rechercher le capitaine mais il n'était nulle part. Personne ne voyait qui c'était. En y repensant aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être un esprit qui s'est présenté à nous pour nous montrer que l'herbe pouvait être notre allié contre la douleur et les deuils tragiques que nous traversions. Il voulait qu'on comprenne que la marijuana n'était pas une drogue, mais une médecine au contraire. Il nous l'a prouvé quand on a vu que ce jeune soldat avait été capable de se remettre de sa tristesse insondable grâce à ses quelques bouffées de fumée. Voilà, c'est sans doute lui le premier esprit que j'ai rencontré. Et après ça, j'ai vécu beaucoup d'autres expériences spirituelles. La plus frappante a été celle que j'ai vécue dans les Rock Mountains en 1990, près d'un endroit qu'on appelle Eagle Rock, le rocher de l'aigle. Je le raconte dans le livre, mais à un moment, en pleine nuit, j'ai rencontré quatre esprits qui m'ont montré une scène venant du futur. Ces esprits ressemblaient à des hommes Lakota et avaient des ailes. Ils venaient de la nation des oiseaux. Ma mère m'a toujours dit, quand tu vis une expérience spirituelle, ne la remets pas en question, reçois-la simplement. Tu n'as pas à questionner les esprits qui viennent te voir, à leur demander pourquoi ils sont là ou pourquoi ils te montrent ou te disent telle ou telle chose. Tu restes humble et tu reçois, observe et écoute. L'un des hommes ailés m'a dit, voilà ce qui arrive du futur. Il m'a fait voler au-dessus d'une scène magnifique. Je voyais des gens de tous les pays qui semblaient vivre en harmonie, dans le respect et la joie. C'était la première fois que je vivais une expérience spirituelle aussi intense. Durant des cérémonies, quelques jours après cela, des esprits m'ont dit qu'une grande purification se préparait dans le futur, la quatrième. Nous pensons que la Terre s'est déjà entièrement purifiée et régénérée trois fois. Et cette scène que l'homme ailé m'a montrée, cette scène d'harmonie, où tous étaient unis et bienveillants, j'ai compris que c'était une scène de calme avant la tempête. Une scène qui allait précéder la prochaine purification. Quand cette paix et cette harmonie se répandront sur la planète, cela signifiera que la purification est proche. Les menteurs, manipulateurs, destructeurs auront été écartés le temps que les gens se rassemblent en paix. Il faudra profiter de ce moment suspendu de joie et de paix pour se préparer à traverser la purification qui permettra à la Terre-Mère de se réparer. Juste avant que ça commence, les menteurs et les manipulateurs reviendront et essaieront à nouveau de répandre la terreur. Il faudra traverser la grande purification sans peur pour pouvoir rejoindre paisiblement le monde des esprits. Ce sera un peu comme une bataille qui, pour rejoindre les gangs, des menteurs qui vivent sous le dôme de la peur, qui, pour quitter les vibrations basses de la terreur, et rejoindre les terres des ancêtres. Ceux qui parmi nous vivent sans peur devront dire aux autres de s'accrocher, de ne surtout pas sombrer dans la panique. Quoi qu'il arrive, ne craignez rien. C'est un peu ça le message des visions que j'ai reçues au cours de mon parcours spirituel. À un moment, j'ai commencé à essayer de guérir de mon stress post-traumatique. Je suis revenue vers ma spiritualité, vers les cérémonies de mes ancêtres. J'ai participé à des huttes, des quêtes de vision, des sun dances, et des visions et des messages sont arrivés peu à peu, comme les pièces d'un puzzle. Ces messages, je dois les transmettre à mon tour. Fin de la première partie. Retrouvez dans notre prochain numéro la suite de cet entretien qui évoque notamment les cérémonies Lakota, les prophéties et la protection de la Terre-Mère.
J'espère que vous avez pris un grand plaisir à l'écoute de cet article intitulé « Abandonner la peur » qui est vraiment le leitmotiv d'Ernie. Nous avons pris un grand plaisir, Jocelyn, Claire et moi-même, à interviewer Ernie il y a presque un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant. Voilà, l'article est en deux parties, donc vous l'avez dans le numéro 8 et dans le numéro 9 de Native. Je vous propose aussi quelques informations sur Native. Nous venons de sortir un numéro spécial intitulé « Résilience, climat et biodiversité » numéro 2021 que vous trouverez en vente sur le site www.revue-native.com. Dans ce numéro, vous retrouverez une interview de Philippe Descola, anthropologue français, interview réalisée dans le Lot en compagnie de Jacques Lavergne, de Esprit Occitanie. Vous retrouverez aussi un portfolio de notre parrain Yann Arthus-Bertrand, un magnifique portfolio, au vivre. Une interview de Colline Serrault, une interview de Jean-Pierre Gou, plein de voyages au sein des communautés sur la planète. Nouvelle culture écologique, importance des savoir-faire autochtones. Je tourne les pages en même temps que je vous parle. Voilà, un autre portfolio aussi magnifique de François Guéné. Voilà, vous prendrez beaucoup, beaucoup de plaisir à lire tout ça, je pense. Nous y trouvons aussi les conditions de vie des peuples autochtones dans la planète qui sont souvent complexes. Voilà un article de Walter Eco au plaidoyer pour la nature. Peuple autochtone face à la crise climatique de notre amie journaliste Brigitte Postel. Biodiversité et intelligence collective, un article sur la forêt de Ernst Zucker. La longue lutte des Dayaks contre les entreprises forestières par Héroudine Alexander avec Sabaramani. La fin de la forêt vierge en Amazonie, un article de Stéphane Roustan. Les Védas du Sri Lanka, texte et photo de Raymond Figueras. Un très bel endroit avec des photos et des textes de François Guéné, La revanche des Mayas. L'interview de Colline Serrault. Voilà. Les rêves et la métamorphose. Interview de Jean-Pierre Gou. Propos recueillis par Jocelyn Morisson. Rencontre avec Jean-Marc Troubet dit Troops. Propos recueillis par Brigitte Postel. En Martinique. Cultiver durablement votre avenir. Une expérience novatrice et typiquement martiniquaise s'inspire de la ferme autonome Songhai au Bénin et de l'agriculture de risque. Elle rime avec écologie et souveraineté alimentaire. Enfin, quelques conseils de lecture. L'œil du jaguar, Sophie Squaton chez Actes Sud. Politique du Fermonde, le dernier texte de notre anthropologue Philippe Descola au Seuil. Le dernier livre de Paul Watson, Biocentrisme. Le secret de la vie, chez Très Daniel, de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, que je vous conseille. Amour, force et lumière, Laurent Huglit, chez Mama Édition. Kimik, de Michel Jean au Seuil. Et si vous souhaitez aussi, vous retrouverez dans un ouvrage que j'ai publié au mois de mars de cette année, « La vie est un chemin sans fin et sans limite », l'interview complète de notre ami Ernie Lapointe et une douzaine d'interviews de personnalités, d'hommes et de femmes remarquables. Pour finir, je vous précise que l'exposition « Hommage » de Franck Desplanques cherche toujours des lieux pour l'accueillir. Nous présenterons l'expo du 15 au 30 mars 2026 à Muret, à la médiathèque et à la maison des associations. Voilà, n'hésitez pas, vous retrouverez tous ces renseignements sur le site. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée.